Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi le Canada n'a-t-il pas d'or dans ses réserves? Un texte d'André Dubuc, paru dans la presse. Un lecteur de Kamouraska, Michel Champagne, demande « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, alors que plusieurs banques centrales du monde, dont la Chine, accumulent des réserves d'or, le Canada, qui est pourtant un producteur d'or, n'en a pas? » Le prix de l'or a plus que doublé depuis 2 ans, passant de 1 800 $US l'once en septembre 2023 à plus de 3 600 $US ces jours-ci. Durant cette période, malgré un prix de l'or en hausse, les banques centrales ont continué d'acquérir des lingots à bon rythme. Pourquoi donc? Avant de répondre directement à la question, à quoi servent au juste les réserves internationales d'un pays comme le Canada? Les réserves servent, selon le Fonds monétaire international, à défendre une devise contre des sorties de capitaux trop prononcées, pour assurer aux banques des liquidités d'urgence en monnaie étrangère et pour résister à des situations de marché chaotiques. Ces dernières années, en particulier depuis les sanctions américaines à l'endroit de la Russie ayant suivi l'invasion de l'Ukraine, des pays ont pris bonne note qu'ils risquent à tout moment de perdre l'accès à leurs réserves libellées en dollars américains. Et leurs banques centrales ont voulu diversifier le contenu de leurs réserves internationales avec un actif neutre. Autre facteur qui entre en ligne de compte, des banques centrales craignent l'érosion du pouvoir d'achat de leurs réserves en dollars américains, conséquence de l'état désastreux des finances publiques aux États-Unis, avec une dette fédérale de plus de 36 000 milliards US. En 2022, 2023 et 2024, les banques centrales ont augmenté leurs réserves d'or de 1 000 tonnes par année. Les achats nets s'élèvent à 400 tonnes après 6 mois en 2025, selon le Conseil mondial de l'or. Les banques de Pologne, du Kazakhstan et de la Turquie mènent la danse cette année. On est rendu au point où les banques centrales détiennent globalement plus d'or dans leurs réserves que de bons du Trésor américain, une première en 30 ans. La plupart des bons du Trésor ne représentent plus que 23 % des réserves, en baisse par rapport au pic de plus de 30 % dans les années 2010 et inférieur à la part actuelle de l'or, qui est de 27 %. Selon un sondage mené par le Conseil mondial de l'or auprès des banquiers centraux, la majorité des personnes interrogées, 73 %, prévoit une baisse modérée ou significative des avoirs en dollars américains dans les réserves mondiales dans les 5 prochaines années. Et en conséquence, la part d'autres actifs comme l'or augmentera au cours de la même période. Le Canada fait en effet bande à part en étant la seule banque centrale du G7 à ne détenir aucune once d'or dans ses réserves. Ce ne fut pas toujours le cas. Le Canada détenait environ 1023 tonnes d'or en 1965. En 1985, les réserves avaient fondu de moitié. Tout au long des années 1990 et jusqu'en 2002, les ventes se sont poursuivies à bon rythme. Les dernières onces ont été vendues en 2016 sous le gouvernement de Justin Trudeau. C'est spécial parce que le Canada est le 4e producteur d'or en importance dans le monde, avec des livraisons de 200 tonnes en 2024. Dans une entrevue accordée à Michel Macquarie sur le site Kitco News en 2022, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, répétait que le contenu de réserve de la Banque du Canada relevait d'une décision du ministre des Finances et du gouvernement canadien, et non pas de la banque elle-même. Selon M. Poloz, ceux qui ont pris la décision de vendre les lingots dans le passé préféraient des actifs plus liquides que l'or, et qui, contrairement au métal précieux, engendre des revenus sans avoir de frais d'entreposage, comme des bons du Trésor et des obligations américaines. Selon une étude des économistes de la Banque nationale BN de 2020, dont a fait état ma collègue Hélène Barry, le contenu des réserves du Canada prend acte du fait que la Réserve fédérale américaine a agi comme stabilisateur des marchés financiers mondiaux en période de crise dans le passé, en accordant des facilités de swap de devises à une série de banques centrales étrangères. Mais le fera-t-elle demain? Au moment où les États-Unis se replient sur eux-mêmes et tournent le dos aux institutions multilatérales. Étant donné ces circonstances, la BN s'interrogeait sur l'insuffisance des réserves canadiennes, 80 milliards US à l'époque ou au moins 3 % du produit intérieur brut canadien, et sur l'absence d'or. Avec le retour de Donald Trump à la présidence, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a constaté publiquement la fin de l'intégration tous azimuts entre le Canada et les États-Unis. L'état actuel des réserves internationales du pays est-il adapté à cette nouvelle réalité? C'était « Pourquoi le Canada n'a-t-il pas d'or dans ses réserves? » Un texte d'André Dubuc, paru dans la presse.
Cuba, une société désarmée face à son propre régime. Un texte d'Anselmo de la Seda Cuevajoja, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir. Longtemps analysé à travers le prisme de l'ingérence américaine et de la doctrine Monroe, la trajectoire politique cubaine mérite aujourd'hui une lecture plus exigeante. L'histoire de l'île révèle comment, bien au-delà des facteurs extérieurs, le régime issu de la révolution de 1959 a progressivement façonné une société profondément entravée dans sa capacité à se libérer par elle-même. Vu depuis l'Amérique du Nord, et notamment depuis le Québec, où le débat sur Cuba demeure chargé d'affects et d'héritages idéologiques, l'histoire politique de l'île est souvent résumée à une opposition binaire entre impérialisme américain et résistance révolutionnaire. Cette lecture, commode mais réductrice, tente à occulter une réalité plus dérangeante, celle d'un régime qui, depuis plus de 6 décennies, a méthodiquement désarmé sa propre société sur les plans politiques, social et psychologique. Avant 1959, Cuba n'était pas une démocratie aboutie, mais elle connaissait une évolution politique réelle. Les guerres d'indépendance de la fin du XIXe siècle furent profondément marquées par les idéaux des Lumières et par l'influence de la Révolution française, perceptible jusque dans les symboles nationaux, drapeaux, hymnes, rhétorique républicaine. La guerre de 1895-1898, qui opposa les indépendantistes cubains à l'Espagne, bénéficia de l'intervention militaire des États-Unis. Celle-ci déboucha toutefois sur une occupation américaine de 4 ans, dont l'ombre pèsera durablement sur la conscience nationale. L'amendement Platt, imposé à la jeune République, et la seconde occupation américaine nourrirent une méfiance profonde à l'égard de Washington. Dès les premières décennies du XXe siècle, intellectuels et penseurs cubains remirent en question cette relation asymétrique, posant les bases d'un anti-américanisme structurant. La pensée de José Martí, souvent simplifiée ou instrumentalisée par la suite, joua un rôle central dans cette construction idéologique. La révolution de 1930, porteuse d'idéaux démocratiques et sociaux, échoua à transformer durablement le système politique. La Constitution de 1940 représenta pourtant un jalon fondamental. Progressiste, pluraliste, elle inscrivait Cuba dans une tradition démocratique latino-américaine prometteuse. Le coup d'État de Fulgencio Batista interrompit brutalement ce processus, ouvrant la voie à la lutte armée et finalement à l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. L'instauration du communisme à Cuba introduisit dans la région un système idéologique largement étranger aux traditions politiques latino-américaines. Ses conséquences furent profondes. Une grande partie de la classe moyenne, des professionnels et des cadres éduqués émigra aux États-Unis. Ceux qui restèrent, ouvriers et paysans, constituèrent la matière sociale idéale pour un projet de transformation radicale de la société. La suppression de la propriété privée, la collectivisation et l'étatisation quasi totale de l'économie s'accompagnèrent d'un endoctrinement systématique. L'éducation, les médias, les organisations culturelles et sportives furent mobilisées non seulement pour élargir l'accès à des services autrefois inégalement distribués, mais aussi comme puissants outils de propagande. La révolution se présenta comme l'unique rempart contre un retour au capitalisme assimilé à la misère et à la domination étrangère. Parallèlement, un système de contrôle social d'une efficacité redoutable fut mis en place. Les organisations de masse, comités de défense de la Révolution, fédérations des femmes cubaines, syndicats officiels, quadrillèrent la société. La police politique et la sécurité de l'État s'implantèrent dans chaque quartier, chaque école, chaque lieu de travail. Les réseaux de délation instaurèrent une méfiance durable entre les individus, laissant des traces psychologiques profondes, voix baissée, autocensure, réflexes de peur qui persistent encore aujourd'hui, y compris à l'étranger. Toute forme de dissidence fut infiltrée, discréditée ou écrasée. La répression, souvent raffinée et implacable, ne visait pas seulement à punir, mais à épuiser moralement. Dans le même temps, le régime utilisa l'immigration comme soupape politique. Des épisodes tels que Camarioca, le Mariel ou la crise des Balseros permirent d'exporter une partie de l'opposition. Plus récemment, la facilitation de routes migratoires via le Nicaragua et le Venezuela a prolongé cette logique. À cela s'ajouta une gestion cynique de la criminalité non idéologique. Une tolérance sélective, voire une instrumentalisation de la corruption, du vol et plus récemment du trafic de drogue, contribua à maintenir des loyautés opportunistes. La dépendance matérielle, renforcée par la carte de rationnement et l'emploi étatique quasi exclusif, acheva de lier la survie quotidienne à la soumission politique. Après plus de 65 ans, le résultat est un dommage socio-anthropologique majeur. Si la désillusion est généralisée, la capacité à organiser une contestation autonome est profondément affaiblie. Les manifestations du 11 juillet 2021, loin d'ouvrir une brèche durable, ont permis au régime de perfectionner ses mécanismes de répression face à des protestations fragmentées. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant qu'une partie de la population en vienne à souhaiter une intervention extérieure, notamment américaine, malgré le lourd héritage des ingérences passées. Cette contradiction tragique, espérer une libération venue de l'extérieur après avoir été privé méthodiquement des moyens de se libérer soi-même, constitue peut-être l'un des échecs les plus profonds de la révolution cubaine. C'était « Cuba, une société désarmée face à son propre régime », un texte d'Anselmo de la Seda Cuevarora, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir.
Les articles de Chine, ça ne nous rend pas service. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 16 octobre 2025 dans La Presse. Renaissance poursuit sur sa lancée. L'organisme, qui compte maintenant 42 points de vente d'articles et de vêtements d'occasion, vient d'inaugurer son tout nouveau centre réunissant une friperie, un centre de recherche d'emploi et un centre de distribution. Malgré tout, une ombre plane sur la friperie à l'enseigne jaune. La popularité grandissante de Shein et de Temu reconnaît son directeur général Éric Saint-Arnaud. Les Québécois sont de plus en plus attirés par les plateformes chinoises à bas prix comme Shein et Temu, reconnues pour encourager l'acheter-jeté en raison de la piètre qualité de leurs produits. Le plus récent baromètre du Conseil québécois du commerce de détail, CQCD, mené par Orama Marketing, indique que 26 % des consommateurs d'ici ont effectué un achat sur Temu au cours des 6 derniers mois de 2025, contre 24 % en avril et 21 % en janvier. Et ce sont 20 % d'entre eux qui ont jeté leur dévolu sur Shein, alors que cette proportion s'élevait à 17 % en avril et à 16 % en janvier. Les dons d'articles provenant de Shein ou de Temu, ça ne nous rend pas service. Le pourcentage de stock qu'on ne pourra pas vendre va augmenter et le pourcentage de déchets va augmenter. Éric Saint-Arnaud tenait ses propos alors que La Presse visitait le centre d'impact Maurice Duplessis, nouvellement construit dans le nord-est de Montréal. Coût du projet, 45 millions. D'une superficie de 160 000 pieds carrés, l'endroit inauguré officiellement récemment compte à la fois une friperie, qui ouvrira au printemps 2026, un centre de distribution, un centre de dons, un centre de recherche d'emploi, un centre de recherche sur le textile et un magasin Kilo, lieu où l'on donne une dernière chance aux articles qui n'ont pas trouvé preneur dans les points de vente de Renaissance. Ici, les consommateurs qui fouillent dans d'immenses bacs bleus se promènent avec des paniers d'épicerie et achètent au poids. Les vêtements se vendent 5,29 $ le kilo, contre 2,20 $ pour les jouets, par exemple. Alors qu'il plongeait ses mains dans les bacs d'articles pêle-mêle pour en ressortir des tasses ou un chemisier à carreaux pour enfants encore en bon état, M. Saint-Arnaud ne cachait pas son inquiétude à propos de Chêne et de Thému. S'il ne veut pas juger les clients qui magasinent sur ces sites, il n'en demeure pas moins que la piètre qualité des dons provenant de ces plateformes fait en sorte qu'ils ne peuvent être remis sur les cintres de Renaissance. Avec Chêne, il n'y a plus de circularité, dit-il, ajoutant dans la foulée que les matériaux avec lesquels sont conçus les articles de ces géants chinois sont difficilement recyclables. Actuellement, 16% des dons reçus par l'organisme prennent le chemin de la poubelle. Ils ne sont pas tous issus de ces plateformes, mais les quantités reçues risquent d'augmenter, s'inquiète Éric Saint-Arnaud. Autre épine dans le pied de Renaissance. Le prix. Sur le site de Chêne, les consommateurs peuvent aisément se procurer un chandail à 8 $ et une camisole à 6 $, par exemple. Parfois, ces articles vont être plus chers dans l'usager que dans le neuf, observe M. Saint-Arnaud. Ou parfois au même prix. Renaissance et la surconsommation. Bien que l'organisme aide les gens dans le besoin qui peinent à joindre les deux bouts et permettre de donner une deuxième vie aux robes, chandails et autres romans qu'il reçoit, ne contribue-t-il pas aussi à encourager la surconsommation? Ne donne-t-il pas bonne conscience à certains consommateurs qui ont les moyens de s'acheter un jean sous prétexte qu'il s'agit d'un vêtement d'occasion? C'est une bonne question, répond d'emblée son directeur général. Chose certaine, l'autre magasin Kilo, situé rue Ferrier à Mont-Royal, est victime de sa popularité. Les gens font la queue le matin avant même l'ouverture. Dans le lot, des consommateurs qui ont peu de moyens, des familles, mais pour d'autres, c'est un événement de magasinage. Et à celui du centre Maurice Duplessis, nouvellement ouvert, les clients affluaient déjà lors de notre passage. Philosophe, il ajoute, « Je fais quand même le pari que les gens achètent ce dont ils ont vraiment besoin. Mais un jour, il faudra qu'on atteigne une limite du nombre de magasins qu'on ouvre. » Renaissance en bref. Année de fondation, 1994. Directeur général, Éric Saint-Arnaud. Nombre d'employés, 1900. Nombre de points de vente, 42, 25 grands magasins. Centre d'impact, 2. Mont-Royal et Le Nouveau, dans le nord-est de la ville, sur le boulevard Maurice Duplessis. C'était les articles de Chêne, « Ça ne nous rend pas service », un texte de Nathaël Morissette, paru le 16 octobre 2025 dans La Presse.
Santé Canada approuve un médicament contre la dépression postpartum, un texte de Nicole Ireland de la Presse canadienne, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. Santé Canada a approuvé le premier médicament conçu pour traiter la dépression postpartum. La zuranolone, commercialisée sous le nom de Zurzuvae se présente sous forme de comprimé à prendre une fois par jour pendant 14 jours et peut commencer à soulager les symptômes dépressifs en seulement 3 jours. Fabriqué par Biogen, ce médicament est autorisé aux États-Unis depuis la fin 2023 et également au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Une femme sur 5 souffre de dépression ou de troubles anxieux pendant ou après la grossesse, selon le site web de Santé Canada. La zuranolone est un médicament bienvenu pour les femmes souffrant de dépression postpartum modérée à sévère, a indiqué la docteure Crystal Clark, titulaire d'une chaire de recherche du Canada en santé mentale reproductive et chef associé de la recherche département de psychiatrie Women's College Hospital. Les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont souvent utilisés pour traiter la dépression postpartum, mais ils agissent généralement moins rapidement, et les femmes doivent les prendre beaucoup plus longtemps, a précisé la Dr. Clark. Bien que nous disposions de traitements efficaces pour de nombreuses femmes souffrant de dépression postpartum, ce médicament sera le premier à ne nécessiter qu'une prise de 2 semaines et à agir rapidement, en quelques jours seulement, a-t-elle souligné. Les antidépresseurs ISRS augmentent la disponibilité de la sérotonine, un neurotransmetteur, dans les zones du cerveau associées à l'humeur. La zuranolone est une version synthétique de l'allopregnanolone, un métabolite de la progestérone, une hormone dont le taux fluctue pendant la grossesse. Ce médicament agit sur les récepteurs GABA, acide gamma-aminobutyrique de type A, du cerveau, impliqué dans la régulation de l'humeur. Les changements hormonaux sont liés à l'apparition des symptômes de la dépression postpartum, a expliqué la Dr. Clark. Ce médicament est recommandé pour les dépressions postpartum modérées à sévères, la gravité étant mesurée par le degré d'altération du fonctionnement quotidien, a ajouté la Dr. Clark. Les symptômes peuvent inclure une humeur dépressive ou des sautes d'humeur importantes, une anxiété sévère ou des crises de panique, une irritabilité et une colère intense, des sentiments de dévalorisation, de honte ou de culpabilité, des difficultés à créer un lien avec le bébé et une fatigue extrême qui s'ajoute au manque de sommeil auquel les jeunes parents sont généralement confrontés. Les mères souffrant de dépression postpartum peuvent également présenter des changements d'appétit, des difficultés à se lever, à se doucher ou à s'habiller, même avec de l'aide pour le bébé. Dans les cas les plus graves, elles peuvent avoir des pensées suicidaires, a mentionné la Dr. Clark. Nombre de ces patientes souffrant de dépression postpartum sont choquées d'avoir un problème. J'entends parfois « Je désirais cette grossesse. Je suis impatiente d'avoir ce bébé. Je ne comprends pas pourquoi je me sens si mal », a-t-elle indiqué. Détail de l'essai clinique. Dans un courriel adressé à la presse canadienne, Santé Canada a déclaré avoir procédé à un examen approfondi des données probantes de Biogène, démontrant que le médicament répond à tous les critères d'innocuité, d'efficacité et de qualité, et que ses avantages l'emportent sur ses risques lorsqu'il est utilisé conformément aux indications. Ces données probantes comprennent notamment un essai clinique qui a utilisé l'échelle de dépression de Hamilton pour mesurer l'évolution des symptômes chez 196 femmes souffrant de dépression postpartum sévère. Ces femmes ont été réparties aléatoirement en 2 groupes, l'un prenant du zuranolone, l'autre un placebo, une fois par jour pendant 14 jours. L'étude a révélé une réduction statistiquement significative des symptômes dépressifs chez les participantes ayant pris le médicament. La mesure principale a été effectuée après 2 semaines de traitement, mais les symptômes de certaines femmes se sont améliorés dès 3 jours après le début de la prise du médicament. Les chercheurs ont effectué un suivi auprès des participantes 45 jours plus tard, et ont constaté que les symptômes demeuraient réduits. On ignore combien de temps ces effets persisteront et s'il y aura des récidives de symptômes dépressifs au-delà de cette période, a avancé la Dr. Clark. Elle a toutefois noté que les patientes aux États-Unis réagissent bien aux médicaments. Les effets secondaires les plus fréquents chez les participantes à l'étude ayant pris de la zuranolone étaient la somnolence, des vertiges, la sédation et des maux de tête. Les femmes ne devraient pas allaiter pendant la prise du médicament tant que des recherches supplémentaires n'auront pas déterminé son innocuité pour le nourrisson, a précisé la Dr. Clark. En raison de la somnolence potentielle, il est conseillé aux femmes d'être accompagnées pendant les premiers jours pour s'occuper du bébé, le temps d'observer sa réaction aux médicaments, a-t-elle ajouté. Le docteur David Silver, gynécologue psychiatre à l'UPMC de Camp Hill en Pennsylvanie, prescrit de la zuranolone depuis plus d'un an et estime qu'il s'agit d'un ajout très important à l'arsenal thérapeutique contre la dépression postpartum en raison de sa rapidité d'action. Quand une femme vient d'accoucher et doit s'occuper d'un nouveau-né, chaque seconde compte, a-t-il rappelé. Le Dr. Silver a expliqué qu'il analyse les symptômes dépressifs de ses patientes pour déterminer si le traitement le plus approprié est un antidépresseur ISRS ou la zuranolone. Si elles ont déjà connu plusieurs épisodes dépressifs et que leur dépression a persisté tout au long de leur grossesse et n'est pas apparue seulement au troisième trimestre ou juste après l'accouchement, alors un ISRS peut leur être bénéfique, a-t-il précisé. En revanche, si une patiente arrive sans avoir souffert de dépression pendant sa grossesse et que soudainement, au troisième trimestre ou juste après l'accouchement, elle développe des symptômes marqués, alors c'est pour elle que j'envisage sérieusement la zuranolone, a-t-il détaillé. C'était Santé Canada approuve un médicament contre la dépression postpartum. Un texte de Nicole Ireland de la Presse canadienne, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.